Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
L'heure du destin. En 1516, Ferdinand le catholique mourut. Juan Velasquez, son fidèle trésorier, disparaissait à son tour le 12 août 1517. Inigo perdait son protecteur. Sur le conseil et avec les 500 escudos de sa veuve, il va offrir ses services à Pamplune au duc de Najera, Don Antonio Manrique de Lara, nommé vice-roi de Navarre en mai 1516, qu'il engagea comme écuyer. En septembre 1520, une rébellion dresse les gens de Najera contre leur seigneur. Inigo prend part à l'expédition punitive, faisant preuve d'un grand et noble courage et de générosité, comme le note son secrétaire à Rome, le père Polanco, auquel l'histoire est redevable d'une somme inestimable de témoignages sur la vie authentique de Saint Ignace. Najera vaincu, la ville est mise à sac. Inigo refuse de toucher au butin, car il trouve le pillage indigne d'un gentilhomme de sa condition. Les turbulences n'en continuent pas moins d'agiter la région. Charles Quint, qui ne connaissait rien à l'Espagne, en était cependant le roi depuis le 14 mars 1516. 3 ans plus tard, il obtenait la couronne impériale, âprement disputée à François Ier, qui lui voua dès lors une haine sans répit. La reconquête de la Navarre, annexée à la Castille en 1512, par Ferdinand le catholique, offrait au roi de France l'occasion de prendre sa revanche. Profitant de l'absence de Charles Quint et de la révolte des comuneros, ces communes en révolte contre l'entourage flamand de l'empereur, une armée française de 12 000 fantassins et de 29 pièces d'artillerie, sous les ordres d'André de Foix, franchit la frontière le 12 mai 1521. Le vice-roi de Navarre tente en vain d'alerter Charles Quint. Les renforts n'arrivent pas. Le 17, Don Antonio Manrique se précipite à Ségovie pour convaincre le gouverneur d'envoyer les troupes indispensables au salut de la Navarre. Avant de partir, il laisse la garnison de Pamplune entre les mains de François de Beaumont, qui fait défection et se retire. Les habitants de la ville n'ont aucune envie d'affronter les Français qui, déjà, campent sous leurs murs. La capitulation est imminente. Seule poche de résistance, un millier d'hommes retranchés dans la citadelle. Parmi eux, Inigo de Loyola. Le 20 mai 1521, citation. Le jour venu où l'on attendait l'attaque de l'artillerie, il se confessa à l'un de ses compagnons d'armes. Après que la canonnade eut duré un bon moment, une bombarde l'atteignit à la jambe, la brisant toute. Et parce que le boulet passant entre les jambes, l'autre reçut une mauvaise blessure. Fin de citation. Ainsi, Inigo lui-même raconte-t-il au père Luis González de Cámara, dans un récit recueilli à partir de 1553, les circonstances qui allaient entraîner un changement radical de sa vie. La lutte intérieure. La blessure de Inigo est grave. Vainqueur mais bon prince, les Français le traitent avec courtoisie et organisent son rapatriement sur une civière. À la maison de Loyola, les médecins constatent que les os de la jambe brisée ont été mal ajustés lors de l'intervention d'urgence en Pampelune. Il faut la briser une seconde fois. Il recommence donc cette boucherie, le mot est d'Ignace. Sans anesthésie, l'opération est une torture. Le patient ne souffle mot, se contentant de serrer les poings. En dépit des efforts, la mort s'approche. Le 28 juin, il se confesse et reçoit les derniers sacrements. Or, la nuit même, il se sent mieux et ses jours, rapidement, sont hors de danger. Mais Inigo n'est pas au bout de ses peines. Juste sous le genou, un os chevauche l'autre, si bien que la jambe cassée reste plus courte que l'autre. Il songe que cet inconvénient va l'empêcher de porter une botte très ajustée et très élégante. La chose est intolérable. Une seule solution, trancher l'os, à vif. Inigo n'hésite pas, ordonne ce nouveau martyr et subit l'opération avec son endurance habituelle. Après quoi, les chirurgiens entreprennent de remédier au raccourcissement de la jambe en lui appliquant quantité d'onguents et d'instruments. À nouveau, le patient guérit, mais incapable de se tenir sur ses jambes, il doit garder le lit et se languit d'ennui. Une consolation, Pampelune a été reprise le 30 juin à André de Foix, capturée et rançonnée pour 10 000 ducats. Cependant, le cœur de Inigo n'est plus à la guerre. Des heures durant, il mijote les exploits à réaliser pour la dame de ses rêves. Afin d'exciter son imagination, il demande des livres de chevalerie. On ne trouve à Loyola qu'une Vita Christi de Ludolphe le Chartreux et une Vie des Saints de Jacques de Voragine. Faute de mieux, Inigo se plonge dans ses lectures, dont il éprouve une sensation étrange. Son esprit se trouve tantôt attiré par les conquêtes mondaines auxquelles il n'a pas renoncé, mais qui le laissent aride, tantôt séduit par les mortifications des grands saints. Avec insistance, il revient à cette pensée. Saint Dominique a fait ceci, eh bien moi, il faut que je le fasse. Saint François a fait cela, eh bien moi, il faut que je le fasse. Inigo commence à ressentir le dégoût de sa vie passée. Une nuit, il éprouve une très excessive consolation dans la claire vision de Marie avec l'enfant Jésus. L'effet de cette expérience est immédiat. Il conçoit un tel écœurement de toute sa vie passée, et spécialement des choses de la chair, qu'il lui sembla qu'on avait ôté de son âme toutes les sortes d'images qui y étaient peintes auparavant. Dès 7 heures, il estime n'avoir plus jamais consenti aux pulsions charnelles. À travers la lutte intérieure, Inigo convalescent devient un autre homme. Son frère, sa belle-sœur, toute la maison de Loyola constate le changement et s'en étonne. Lui, sur un cahier de 300 feuilles de papier lisse et rayé, se met à copier des textes pieux. Paroles du Christ à l'encre rouge, celles de la Vierge en bleu, le tout d'une écriture appliquée. Tout en copiant, il forme des plans d'avenir. Primo, aller à Jérusalem. Ensuite, par exemple, se présenter à la chartreuse de Séville. Un beau jour, usant d'un maigre stratagème, il déclare à son frère vouloir rejoindre le duc de Nájera. Soupçonnant à juste titre de toutes autres intentions chez son cadet, le frère tente une manœuvre de dissuasion. Prenant Inigo à part, il le mène dans une chambre, dans une autre, le supplie de ne pas courir à sa perte, lui fait valoir tout le bien qu'il pourrait accomplir à Loyola. Peine perdue. D'une formule abrupte, Ignace raconte qu'il se débarrassa de son frère. Inigo quitte Loyola à la fin février de 1522, monté sur une mule. Il se dirige vers Navarrete et recouvre les ducats que lui doit la maison du duc de Nájera. Ainsi n'a-t-il pas menti à son frère, distribue aussitôt l'argent reçu et prend la direction de Montserrat. Un épisode amusant dépeint ce converti au cœur généreux mais au jugement mal dégrossi. Chemin faisant, il concentre toute son attention sur les énormes pénitences qu'il accomplira pour sauver son âme et plaire à Dieu. Tandis qu'il médite ses projets, un mort le rejoint, monté sur un mulet. Les deux hommes engagent la conversation et viennent à parler de Notre-Dame. Désaccord total. Le mort ne peut accepter la virginité de Marie après l'enfantement de Jésus. Il abandonne alors le pèlerin, titre que se donne Ignace, et disparaît. Resté seul, Inigo est assailli par le doute. Il n'a pas fait son devoir, il n'a pas défendu l'honneur de Marie. Il va rattraper l'homme et, puisque ce mort est sourd à tout argument, le poignarder. Mais est-ce la bonne solution ? Dilemme. Ou l'honneur perdu de Marie, ou l'assassinat ? Solution. Inigo laisse aller sa mule, les rênes lâchent. Une bifurcation approche. Si l'animal se dirige vers le village où est parti le mort, il le tuera. Si elle prend l'autre chemin, il le laissera tranquille. La mule choisit le chemin de la tranquillité. Ainsi fut résolue la dernière tentation criminelle de Inigo de Loyola. Désormais, une vie nouvelle commençait.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.